Nous poursuivons avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et le remaniement est évidemment encore à la une de l'actualité ce matin. Remaniement qui conserve la parité et laisse 15 places dans le gouvernement des représentants de la société civile. Depuis hier, il y a 4 inconnus promus. Nous dresserons leur portrait et nous poserons la question d'éventuels conflits d'intérêts.
Avec ce remaniement, les questions de logement ou de pauvreté font l'objet d'un secrétariat d'État. Les associations s'en réjouissent. Dans ce journal, nous examinerons les indicateurs qui permettent de mesurer la pauvreté en France.
Nous ferons le point aussi dans cette édition sur le Conseil européen qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles. Il sera question de Brexit, mais à 6 mois du divorce annoncé, force est de constater que l'accord est loin d'être conclu.
Le prince héritier saoudien MBS serait-il lié à la disparition du journaliste Jamal Khashoggi? En tout cas, le New York Times accuse certains de ses proches, vous l'entendrez.
Jean-Luc Mélenchon, la perquisition et des questions. Voici le thème du billet politique de Frédéric Seyss, ce sera dans un quart d'heure. Mais d'abord, cette mesure qui vient d'entrer en vigueur au Canada. Le pays devient le premier du G20 à légaliser l'usage récréatif du cannabis, le second pays dans le monde après l'Uruguay. Une réforme historique. Après quasiment un siècle de prohibition, c'était l'un des engagements de campagne du premier ministre canadien Justin Trudeau. Dans les faits, la pratique était déjà largement répandue dans le pays. L'année dernière, il serait près de 5 millions de Canadiens à avoir consommé pour près de 4 millions $1,5 milliard de marijuana. Et cela n'est qu'un début au regard de ce reportage tourné à Ottawa par notre envoyé spécial Loïc Loury.
À chaque jour, ils sont 450 à défiler dans ce dispensaire d'Ottawa. À 6 euros le gramme de cannabis, Fresco en a pour son argent, il vient ici quotidiennement.
Moi, je suis venu dans le dispensary pour pouvoir acheter un peu de marijuana. Pour enjoy, je pense que c'est super. On pourra fumer comme on veut. C'est mieux que ça qu'acheter dans la rue. Là.
Sortir le cannabis du caniveau, c'est l'objectif affiché du Canada, mais cette légalisation est aussi en train de libérer l'appétit des investisseurs. Afsal Hassan dirige un fonds spécialisé.
Effectivement, l'argent coule à flot. Cela reflète deux choses. D'abord, c'est une immense opportunité, mais c'est aussi malheureusement parce que tout cela est mal compris et beaucoup investissent dans tout ce qui leur tombe sous la main.
Résultat, certains producteurs dépassent déjà les 10 milliards de dollars de capitalisation. Des groupes comme Coca-Cola prennent pied dans le secteur. Attention à la surcommercialisation, c'est ce que dit Eugène Oscapella, criminologue et avocat.
Les forces commerciales sont si puissantes qu'ils vont chercher d'influencer le gouvernement, de laisser tomber certains des principes de santé publique en faveur de vendre plus de cannabis. C'est ma seule crainte avec la légalisation. L'hypercommercialisation peut être presque aussi pire que la vente du cannabis par le crime organisé.
Reste que cela prendra du temps, le marché noir va continuer à prospérer, des pénuries de cannabis légales sont déjà annoncées pour les prochains jours.
En France, on est encore loin d'une légalisation. Emmanuel Macron, qui y songeait l'année dernière, adopte maintenant une position plus dure à ce sujet. Emmanuel Macron, qui est cette semaine préoccupé par l'image de président intransigeant qu'il peut renvoyer aux Français et par l'exercice de pédagogie auquel il a dû s'adonner, fait rarissime pour lui. Hier soir, il a pris la parole pendant 12 minutes lors d'une allocution enregistrée et diffusée à 20h à la télévision et à la radio. On y a vu un président qui s'est libéré des critiques qui lui ont été faites ces dernières semaines, Anne Fauquemberg.
Et parmi ces critiques, toutes ces phrases à l'emporte-pièce, le pognon de dingue des aides sociales, l'ironie sur les Gaulois réfractaires au changement ou encore l'appel à un chômeur à traverser la rue pour trouver du travail, Emmanuel Macron fait preuve de quelques secondes d'humilité.
Parfois, par ma détermination ou mon parler vrai, j'ai pu déranger ou choquer certains. Et j'entends les critiques.
L'occasion aussi de bien redéfinir son rôle, le chef de l'État qui se décrit comme dépositaire de la nation dans un monde qui doute, une nation qu'il entend renforcer.
Aucun d'entre vous n'ira mieux, ni aujourd'hui, ni demain. Si notre pays est plus faible, s'il subit une Europe qui se dérègle ou se replie parce que le fracas du monde l'effraie. C'est pourquoi ce que je demande au nouveau gouvernement ainsi formé et de poursuivre les transformations dont notre pays a besoin et de le faire avec un objectif simple, que nous reprenions pleinement la maîtrise de notre destin.
Et pour ce faire, le cap reste inchangé. Il n'y aura ni tournant ni changement, explique Emmanuel Macron. La volonté d'action n'a rien perdu de son intensité. L'État et la fonction publique restent à transformer. C'est une priorité, tout comme la réforme des retraites. Le chef de l'État qui s'engage à l'écoute et qui demande le soutien des élus locaux.
Des élus locaux qu'il veut séduire de nouveau est d'ailleurs créé un grand ministère des territoires avec à sa tête Jacqueline Gourault à l'occasion du remaniement annoncé hier matin. Au chapitre des changements encore, Christophe Castaner est le nouveau ministre de l'Intérieur, accompagné de Laurent Nunez de la DGSI. Franck Riester, issu de la droite, est lui nommé au ministère de la Culture. Didier Guillaume, ancien sénateur PS à l'Agriculture. Marc Fesneau, également un proche de François Bayrou, devient ministre chargé des relations avec le Parlement. Et puis, il y a des nouveaux secrétaires d'État, dont 4 sont inconnus, étaient inconnus hier encore. Alexandra Dubucheron, vous nous en dressez le portrait.
Commençons par le seul pur haut fonctionnaire parmi ces inconnus, Laurent Nunez. Depuis un an, il était le patron de la DGSI, les renseignements intérieurs. À 54 ans, ce fils de pied noir, énarque, a fait le tour de France, Paris comme inspecteur des impôts, Vesoul, Bobigny, Bayonne comme sous-préfet avec le dossier de l'ETA, Marseille et la lutte contre le narco-banditisme et puis la DGSI en première ligne de la lutte antiterroriste. Il sera donc l'expert de Christophe Castaner en qualité de secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur. Sa mission, coordonner les services, politiques, gendarmerie et renseignement, intelligent, compétent, travailleur, disent ses proches. Ensuite, issu en partie de la société civile, on trouve l'ancienne directrice des affaires publiques de Danone. C'est la nomination qui fait le plus grincer des dents. Certains dénoncent l'entrée d'une lobbyiste au gouvernement, surtout qu'Emmanuel Wargon, 47 ans, devient secrétaire d'État au ministère de la Transition écologique et solidaire. Et puis Danone a récemment été classé par Greenpeace 4e pollueur au plastique de la planète. Mais cet énarque n'y a passé que 3 ans, après 20 années dans la haute fonction publique. Elle aussi a un pied dans le public et un pied dans le privé. Agnès Pannier-Runacher, énarque, ex-directrice générale de la Compagnie des Alpes, est désormais à 44 ans secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Enfin, des 3 députés La République En Marche qui font leur apparition au gouvernement, Christelle Dubos, 42 ans, députée de Gironde, et celle que l'on connaît le moins, cette travailleuse sociale, est entrée en politique avec la vague En Marche.
Une professionnelle de l'insertion sociale, effectivement, désormais missionnée contre la pauvreté. Christelle Dubos est nommée secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Un membre du gouvernement dédié donc à la pauvreté, les associations s'en félicitent et attendent maintenant des actes en cette journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Aujourd'hui d'ailleurs, l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale publie 2 études sur cette question en France. Comme un air de déjà-vu, nous diriez-vous. Il est vrai que ces rapports s'ajoutent à ceux de l'INSEE, d'Eurostat, de l'Adresse ou encore récemment de l'Observatoire des inégalités. En amont des politiques publiques, il y a évidemment la question des indicateurs, de la photographie de la situation. Comment donc mesure-t-on en France la pauvreté, Catherine Pétillon ?
La mesure de la pauvreté est traditionnellement monétaire et considérée comme pauvre une personne dont le niveau de vie est inférieur à 60% du revenu médian, soit 1026 euros l'an dernier. Selon ce critère, plus de 14% de la population active est concernée, c'est-à-dire 8,8 millions de personnes. Un chiffre qui ne bouge pas vraiment. Ce qui évolue, ce sont les populations touchées, en premier lieu désormais les enfants, les jeunes adultes et les familles monoparentales. Mais cette approche n'est pas la seule. D'abord, parce que le seuil de pauvreté retenu ne fait pas consensus. Par exemple, l'Observatoire des inégalités adopte lui un seuil à 50% du revenu médian. Il estime qu'une définition trop extensive de la pauvreté pourrait avoir un effet contre-productif pour ceux qui luttent contre. Si on adopte ce seuil, on aboutit à un taux de 8% au lieu de 14%. Surtout, beaucoup, et même l'INSEE, soulignent les limites d'une approche qui ne serait que monétaire. Certaines mesures préfèrent partir des conditions de vie des personnes et de leurs privations. Et là, si les chiffres sont à peu près similaires, ils ne recouvrent pas les mêmes personnes. Enfin, phénomène marquant, souligné par les institutions, le décalage toujours plus grand entre le nombre de personnes pauvres d'un point de vue monétaire et celles qui ont le sentiment d'être pauvres, une pauvreté ressentie considérée par beaucoup comme un marqueur de l'insécurité sociale. Un certain nombre de chercheurs, à l'image du sociologue Nicolas Duvoux, défendent donc des mesures de la pauvreté qui combinent ces différents critères afin d'en appréhender toute la complexité.
Catherine Pétillon, c'est ce matin que se joue l'avenir de Pascal Pavageot à Force Ouvrière. La direction élargie se réunit à 9h tout à l'heure pour examiner le cas de son secrétaire général. Une majorité de fédérations souhaite son départ après les révélations sur un fichier occulte concernant les principaux membres du syndicat. Leur nom était associé à des qualificatifs du type niais, franc-maçon ou encore trop intelligent. intelligents pour entrer au bureau confédéral. Une belle connerie et une grave erreur, a reconnu par ses mots Pascal Pavageau la semaine dernière. Et puis en bref encore, les députés ont soulagé les agriculteurs. Ils ont supprimé hier une disposition du projet du budget de la sécurité sociale lors d'un débat en commission. Ils sont revenus sur la fin programmée de l'exonération de cotisations pour l'emploi de travailleurs saisonniers, allant ainsi à l'encontre des préconisations du rapporteur.
Eh bien, il est 8h10 sur France Culture et c'est la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Et une question, le Conseil européen organisé à Bruxelles permettra-t-il de sceller un accord sur le Brexit?
Ce scénario reste hautement improbable ce matin, même si les déclarations souvent alarmistes de Bruxelles et de Londres font partie des négociations. La pression sur chaque camp s'annonce très forte lors de ce sommet, Bertrand Galichet.
Theresa May lancera le débat ce soir à l'ouverture du Conseil européen en présentant la position de son gouvernement sur le Brexit qui n'a guère avancé. Une déclaration suivie d'un échange à 27 à l'issue du dîner pour définir si possible une réponse commune. Dans son invitation aux dirigeants européens, Donald Tusk déclare que le scénario d'une absence d'accord avec Londres est plus probable que jamais. Il demande à la dirigeante britannique de nouvelles propositions concrètes et créatives pour, dit-il, sortir de l'impasse. La question du rétablissement de la frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande reste le principal point de blocage. Des solutions transitoires peuvent être imaginées, mais la Commission européenne est vigilante sur le respect durable des principes de libre circulation. Le négociateur européen Michel Barnier assure qu'il prendra le temps, calmement et sérieusement, de trouver un accord global avec Londres dans les prochaines semaines. Ce sommet de Bruxelles s'annonce pourtant comme une nouvelle guerre des nerfs.
Et à propos de la frontière irlandaise, vous pouvez retrouver, réécouter sur franceculture.fr le reportage de la rédaction diffusé ce matin. Reportage d'Antoine Gignot en Irlande du Nord. Le mystère toujours autour de la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Les autorités turques pensent qu'il a été assassiné dans le consulat saoudien d'Istanbul. La perquisition menée lundi soir le confirmerait, assassiné par un commando venu d'Arabie Saoudite, ce que nie toujours Riyad. Mais hier soir, le New York Times affirmait que plusieurs membres de ce commando auraient un lien direct avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, MBS. Ces informations ne sont pas confirmées publiquement, mais Mohamed Ben Salman, c'est sûr, est fragilisé par cette disparition du journaliste. Pour France Culture, Nabila Hamel a interrogé Stéphane Lacroix à ce propos. Professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Arabie Saoudite, MBS, dit-il, pourrait vaciller pour la première fois.
Mohamed Ben Salman, c'est quelqu'un qui s'est imposé par la force, hein, en écartant tous ses concurrents au sein de la famille royale, en imposant un pouvoir personnel là où traditionnellement on gouverne en famille, en se mettant à dos un certain nombre des puissants et des milieux dans lesquels se trouvent ces puissants en Arabie, que ce soit les milieux religieux ou les milieux économiques. Donc c'est quelqu'un qui a énormément d'ennemis et qui est attendu au tournant par ses cousins, les hommes d'affaires, une partie du clergé, etc. Donc c'est vrai que depuis le début, on s'étonne un peu de voir à quel point il a su finalement triompher relativement facilement d'ennemis puissants. Mais effectivement, une crise comme celle-ci, potentiellement, c'est quelque chose qui est susceptible de l'affaiblir. Ce n'est pas que cette affaire, c'est un processus cumulatif. C'est-à-dire en Arabie Saoudite, il s'exerce depuis 2017 une répression d'une violence que l'Arabie Saoudite n'a jamais connue. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'exprimer la moindre opinion divergente, alors que dans le passé, c'était possible, contrairement à ce qu'on imagine. Donc c'est pas que l'affaire Khashoggi, c'est pas que la crise diplomatique actuelle. Celle-ci, elle s'ajoute à d'autres et elles envoient un message à la fois à la communauté internationale et à la société saoudienne, qui est un message malgré tout inquiétant et qui est reçu comme tel par les uns et par les autres.
Voilà pour les explications du professeur Stéphane Lacroix. Riyad et son prince saoudien pâtissent en tout cas déjà de cette disparition économiquement parlant. Nous l'évoquions hier. De grands groupes vont boycotter le Davos du désert organisé la semaine prochaine en Arabie Saoudite. Et ce matin, Christine Lagarde, présidente du FMI, le Fonds Monétaire International, annonce qu'elle n'ira pas à ce forum et reporte son voyage. Trois personnes ont été blessées en Israël hier soir dans le centre du pays. Une maison a en fait été touché par une roquette tirée par des militants palestiniens. Dans la foulée, des avions de l'armée israélienne ont frappé des cibles dans la bande de Gaza. Ce matin, Israël annonce fermer ses deux points de passage avec Gaza. Nous revenons en France où la boue recouvre encore une partie du département de l'Aude. La décrue se poursuit en aval du fleuve. Le dernier bilan de la préfecture fait état de 13 morts et 3 personnes disparues. Ce matin, la vigilance inondation est orange sur le département de l'Aude. Plus généralement, le temps ce mercredi connaîtra une légère amélioration sur le sud-est, tandis que le soleil va briller largement sur un bon quart nord-est. Partout ailleurs, le ciel oscillera entre nuages et éclaircies. Quelques pluies sont prévues sur l'extrême ouest de la Bretagne. La Bretagne, où il fait à Rennes ce matin 12 degrés, comptez 15 à Besançon, 15 également à Lille et à Bordeaux, 17 degrés à Paris, 18 à Lyon, Perpignan, 20 degrés à Marseille.